Bienvenue à toutes et à tous dans Le Meilleur des Mondes, l'émission de France Culture consacrée aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. Et ce soir, nous prenons la tangente pour questionner nos enjeux habituels. Nous allons dériver, flâner, rêver et s'éveiller en compagnie d'artistes qui illustrent, qui utilisent avec leur talent une belle manière de nous éclairer sur les dérives du numérique. La nuit, c'est d'ailleurs la thématique de la Biennale des Imaginaires, ouverte depuis le 10 novembre dans le sud de la France, Aix-Marseille et Avignon. L'occasion de questionner le lien étroit et multiple entre l'art et la technologie, d'explorer la manière dont certains artistes nourrissent la technocritique avec humour et poésie. Comment créer à l'heure du productivisme, du culte de la performance et des algorithmes qui tentent de rendre notre monde programmable et prévisible? Comment se distinguer aussi en tant qu'artiste quand la critique des GAFAM et des réseaux sociaux est devenue si courante et parfois systématique? Pour discuter de la puissance de l'art qui s'empare de la technocritique, 4 invités ont répondu à l'appel. Depuis le sud de la France, où se tiennent jusqu'au 22 janvier les Biennales des Imaginaires Numériques, Mathieu Vabre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous en êtes le cofondateur et le directeur artistique et vous pourrez naviguer dans la nuit thématique de cette année pour revenir sur les nouvelles pratiques dans le champ artistique à l'ère du numérique, à distance toujours. Jean-Paul Formentreau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes socio-anthropologue, professeur en sciences de l'art et d'esthétique à l'université Aix-Marseille et auteur d'Antidata, la désobéissance numérique, art et activisme technocritique. C'est édité aux presses du Réel. Vous pourrez analyser dans l'histoire de l'art les actes de désobéissance numérique et évoquer les changements induits par l'avènement des GAFAM et l'hégémonie des Big Tech. En studio, l'artiste Albertine Meunier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous pratiquez l'art numérique depuis 1998 et vous avez notamment développé un travail autour des data qui nous entourent et nous submergent. Vous avez d'ailleurs initié avec d'autres le mouvement Data Dada. Vous utilisez l'humour, le jeu et la fantaisie pour rendre l'invisible visible et alerter également sur les dérives du numérique. Enfin, pour compléter ce quatuor, l'artiste Philippe Villas-Boas, bonsoir.
Bonsoir.
Auteur de nombreuses installations dans l'espace physique ou ailleurs, vous développez une critique satirique de la notion du progrès technologique. Vous pointez du doigt notre aliénation au numérique et l'automatisation de nos systèmes cognitifs. Pour vous, le champ symbolique reste un bastion de résistance pour lutter contre la toute-puissance des GAFAM. Au programme également, les nouvelles du meilleur des mondes et la chronique de Marcus Dupont-Bénard qui essaiera de redorer le blason de TikTok comme une belle vitrine d'exposition artistique. Je vous vois un petit peu circoncis voire suspect, vous verrez. Marcus va tenter de vous convaincre. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Twitter et Instagram, et à nous écouter en podcast sur l'application Radio France. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à le faire, comme sans doute à l'instant même où je vous parle. Le meilleur des mondes, c'est parti.
Hidden aspects of the media are the things that should be taught.
On détachait vraiment de la réalité cette nouvelle réalité, et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est justement de la reconnecter.
Les artistes forgent des instruments, frais des circuits pour pouvoir affronter cette dimension de qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que c'est que cette planète? À quoi je peux me raccrocher? À rien!
Ma première œuvre sur Internet, elle s'appelle Epiphany, et c'est à la fois un détournement des fonctions utilitaires de Google et un détournement de James Joyce.
On ne contrôle rien sur les réseaux sociaux. On leur confie toutes nos existences, et c'est assez dangereux.
Tout ce qui peut être digitalisé va l'être. En fait, les makers font l'inverse. Ils rematérialisent la culture numérique. Ils remettent l'intelligence artificielle au service de l'humain et à ses besoins premiers.
Effectivement, plus vite la population, jeune ou vieille, apprendra les effets cachés, donc puissants de ces formes, plus vite nous aurons une écologie raisonnable dans les médias eux-mêmes.
Et oui, McLuhan qui nous dit qu'il faut parfois justement rendre l'invisible visible, éclairer les objets cachés. Il parlait à l'époque des médias, mais finalement le monde du numérique, ce sont tout autant des médias. Il est tout aussi important d'alimenter et de nourrir cette critique. On va en discuter ce soir, et notamment sur la portée artistique de cette critique. Je le disais, jusqu'au 22 janvier prochain, ce sont les Biennales des Imaginaires du Numérique qui se déroulent à Marseille, à Aix-en-Provence, à Avignon. C'est plus d'une vingtaine d'exposition. Mathieu Vabre, comment vous est venue l'idée lumineuse de choisir la nuit comme thématique de cette édition?
La nuit, c'est venu d'une trilogie en fait que l'on travaille depuis donc 6 ans, puisque c'est la troisième édition de la Biennale des imaginaires numériques. C'est une trilogie qui portait sur la question des hétérotopies avec la lévitation en 2018, l'éternité en 2020, et donc on a choisi de traiter la thématique de la nuit en 2022, qui fait suite justement au Covid et à ces nuits dont on a été privé. Mais on avait envie d'interroger justement cet espace-temps qui est normalement dédié au repos et l'improductivité, et d'interroger avec les artistes qu'est-ce que devient cet espace-temps à l'ère des nouvelles technologies. Est-ce que c'est toujours cet espace de liberté? Donc c'est un peu la question que l'on pose cette année.
Est-ce que la nuit est toujours un répit? Est-ce qu'il y a des prédateurs de la nuit? On pense notamment à quelques plateformes qui font tout pour nous maintenir éveillés la nuit. Donc c'est une belle thématique, une belle promesse pour éclairer la critique. Jean-Paul Fomentreau, c'est une histoire, je dirais, vieille comme la nuit des temps, justement, celle des artistes qui critiquent la technologie. En quoi le numérique, justement, s'inscrit dans cette filiation?
Eh bien, on peut penser sans doute que, disons, l'imaginaire technologique est marqué depuis toujours, comme vous le dites, hein, par l'ambivalence de nos relations aux machines. Et repartir de l'idée, par exemple, du pharmacon, hein, du grec ancien, chez Platon, mais aussi ensuite théorisé par Derrida ou Stigler, donc chez Hannah Arendt aussi, suivant lequel le progrès et la catastrophe sont l'avers et le revers d'une même médaille.
Le remède et le poison.
Le remède et le poison, exactement, chez Bernard Stiegler, par exemple. Alors, de ce point de vue, si les années 90 ont été marquées peut-être par l'utopie démocratique ou l'hétérotopie, comme le disait Mathieu Vabre, qui accompagnait le développement d'Internet, la période actuelle est volontiers plus dystopique. Hein. Il ne nous aura pas échappé le nombre de fictions, d'essais contemporains qui éclairent et pourfondent les dérives et les dangers du développement technique. Alors, l'art joue un rôle particulier ici, puisque en prenant ce pas de côté dont vous avez parlé en introduction de l'émission, il nous incite à justement réinventer l'utopie d'une certaine façon, ou en tout cas contourner la dystopie qui nous est proposée aujourd'hui.
Albertine, vous vous définissez comme une nette artiste, une artiste pas nette.
Artiste pas nette, c'est ça.
Ouais. Ça veut dire quoi cette définition? Et est-ce que vous vous reconnaissez, vous, est-ce que vous vous sentez aussi technocritique?
Technocritique, je sais pas en fait. Je sais pas, c'est peut-être plus un éclairage plutôt qu'une critique, parce que le numérique est là, donc.
Techno-sceptique alors?
Non, pas sceptique non plus.
Techno-interrogative.
Techno-enthousiaste et en même temps observatrice et décodeuse, on va dire. Ouais, plus essayer de décoder les mécanismes, les mettre en avant, les matérialiser. Plus ça en fait, essayer de entre guillemets d'accompagner tout ça d'un éclairage un peu différent, en fait.
Voilà. Jean-Paul Fomentreau parlait déjà d'une utopie, des débuts d'Internet, avec ensuite l'arrivée des GAFAM, et donc cette dystopie. Plutôt, vous l'avez senti, vous, justement, dans l'évolution de votre travail, comme je l'ai dit, vous avez commencé comme net artiste à la fin des années 90.
Ouais, c'est ça, en fait. C'est vrai qu'il y a mon travail a suivi l'évolution d'Internet, donc... c'est vrai que au début, je dirais que c'était assez assez joyeux, une création assez libre, on va dire. Et puis c'est vrai que ça s'est de plus en plus durci, essayer d'éclairer les choses avec des mécanismes, comment tout ça fonctionne. Et c'est vrai que moi, très rapidement, je me suis focalisée sur le sujet des data, parce qu'en fait, c'est ça qui s'est ancré en fait dans nos pratiques. Et c'est devenu un peu rouleau compresseur, on va dire. Et même dans une pratique artistique, ça peut être presque ennuyeux, en fait, quelque part, de de cette masse, en fait, un peu invincible. Voilà. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Donc, à la fin, on a l'impression que même ce qu'on fait est très vain, en fait. Donc, le chemin d'Internet est moins enthousiasmant, on va dire.
Ouais. Vous, Philippe Villas-Boas, vous avez commencé un peu plus tard en arrivant sur la pratique artistique. Vous avez commencé comme autodidacte. C'était même déjà... Allez, on va dire au même moment de l'essor des GAFAM, on se rappelle que c'est 2005, Facebook, vous démarrez quelques années après. Justement, est-ce que vous, c'est plutôt cette omniprésence de ces GAFAM, l'alignation aussi qu'ils provoquent, qui a déclenché votre envie d'agir, de réagir et votre élan artistique?
Moi, je commence vraiment à m'intéresser au numérique dans ma pratique, parce que j'observe que finalement le numérique, quand moi je commence début des années 2000, on l'envisage plutôt comme une gouache électronique, donc un outil de plus à la palette, on va dire, du digital artist. Mais je le vois pas traité comme une question sociétale, comment il est en train de transformer la manière dont on travaille, dont on grandit, dont on s'éduque, dont on tombe amoureux.
Pas comme un phénomène total, quoi. Jusque-là, c'était un outil et pas comme un.
Ouais, et moi, la sociologie, la philosophie, c'était vraiment ce qui me travaillait le plus. Et j'avais envie de trouver des formes pour partager ces questions. Constater qu'effectivement, de l'utopie, d'interconnexion originelle jusqu'à la dystopie algorithmique d'aujourd'hui, il y a un fossé. Mais moi, je me sens toujours connecté à cette utopie originelle, en fait. Je trouve qu'on a toujours autant cette ouverture et ces possibilités à portée de main. Certes, les choses ont pris une tournure un peu totalement déséquilibrée. Et oui, c'est pour ça, comme vous le disiez en introduction, que moi, je pense que le terrain symbolique est le ring sur lequel il faut aller, quoi. C'est là qu'on peut tenter des petits.
Pourtant, les GAFAM sont aussi présents sur les rings symboliques. Dans la publicité, finalement, c'est ça. C'est aussi des symboles. C'est de coloniser un peu nos imaginaires. C'est d'arriver dans la pop culture. Alors, effectivement, ils sont d'ailleurs aussi dans l'art, hein, directement.
Mais oui. Même, ils financent là.
Et ils financent là.
Oui, alors ils sont en situation. On n'a jamais vu des entreprises dans une telle situation de monopole. Yevgeny Morozov, il parle d'un néo-féodalisme, et je pense qu'à ce titre, il voit juste. Ce qui est intéressant, c'est que ce néo-féodalisme, il est planétaire, que le paysan du 21e, il est autant au Bangladesh qu'à Paris. Sauf qu'à Paris, il est plutôt consommateur. Et que aux Philippines ou à Madagascar, il est consommateur et il est travailleur du clic invisibilisé. Ouais,
il est la cheville ouvrière de nos consommations tout en étant consommateur lui-même. Jean-Paul Formentreau, justement, on le voit bien, cette évolution, c'est-à-dire l'utopie des débuts, où quand on était net artiste, comme le disait Philippe, c'était à la fois un outil, mais aussi des opportunités, un nouvel horizon, un espace à conquérir. On a vu qu'avec l'arrivée des GAFAM, ça a complètement changé les mentalités ou la perception. On va vers une sorte de nouvelle utopie. Utopie quand même pour essayer de rendre cette histoire moins triste.
Ben moi je pense que bon l'internet comme hétérotopie, celle des années 90, une utopie qui aurait réussi était marquée par l'horizontalité d'internet, hein, la dimension accentrée aussi du réseau. On pensait internet davantage avec Akimbe comme une zone d'autonomie temporaire à l'époque, mais c'était aussi surtout un médium plus peut-être qu'un simple outil de création, un médium technique et social puisque il a fait émerger un monde de l'art, d'une certaine façon. Ce qui le rendait intéressant, c'est qu'il était porteur d'une démocratie technique, hein, d'une part, et puis d'autre part, il était en décalage, ou disons en retrait par rapport aux autres mondes de l'art, au monde de l'art moderne et contemporain traditionnel, puisqu'ont émergé des forums, des mailing lists, des ateliers en ligne, etc. Enfin, non seulement des œuvres, différents types d'œuvres, hein, de contamination médiatique, de programmation algorithmique ou de communication interactive qui impliquaient le public, mais aussi un monde de l'art, donc un territoire nouveau finalement à occuper ou à investir. Alors tout ça, ça a été bousculé évidemment par l'arrivée des GAFAM dans les années 2000. Et donc, ça a demandé certainement aussi un repositionnement de la part des artistes. Alors moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment Internet s'étant recentralisé, les pratiques artistiques aussi se sont repolitisées, même si elles l'ont toujours été hein, avec le net art dès le début. Et j'ai essayé d'identifier des tactiques de résistance, si on veut, mais qui empruntent autant aux médias tactiques dont Michel Decerteau est la figure tutélaire ou aux figures.
Le braconnage, c'est ça, d'arriver à utiliser, à retourner l'outil pour servir un propos qui n'était pas forcément le propos initial.
Exactement. Alors même au départ, le bricolage même, c'est-à-dire au sens de Lévi-Strauss, peut-être la dimension do-it-yourself, low-tech, le fait de d'être dans une optique aussi de partage hein, des savoirs en open source, etc., avec les informaticiens, par exemple. Hein, il y a une porosité très grande entre les artistes et les informaticiens du libre, par exemple, dès le départ. Et puis le braconnage, mais au sens de chasser sur les terres des propriétaires, c'est-à-dire considérer les GAFAM comme ceux qui ont verrouillé, qui ont mis Internet en mode protégé, si on veut, et donc infiltrer cette fois-ci et braconner sur ces territoires-là pour se les réapproprier d'une certaine manière. Et on peut même aller jusqu'au sabotage, au sens de Agamben cette fois-ci, hein, des artistes comme Julien Prévieux ou d'autres ont employé cette technique. Alors pas le sabotage peut-être au sens, disons, des ludites ou des camionnés, hein, qui en voilà, mais un sabotage plus symbolique là aussi, hein, c'est-à-dire d'une certaine façon avec humour et dérision pousser le zèle technique ou le zèle des prescriptions techniques jusqu'à leur terme absurde, enfin disons faire dérailler les machines d'une certaine façon, mordre la machine comme disait Julien Prévieux. Bon, voilà des tactiques. Oui.
Et là, pardon, on voit qu'on est un magnifique triptyque, hein, bricolage, braconnage, sabotage. Lorsqu'on a prononcé le mot de braconnage, ça a fait réagir Philippe.
Oui, parce que Jean-Paul Fourmentreau parlait de DIY, et du coup, ça m'a fait penser au mouvement Maker. Et à ce qui s'est produit pendant le...
Alors le mouvement Maker, on va essayer de vulgariser aussi un petit peu. Parce que
le mouvement des gens qui s'approprient les outils de fabrication numérique et qui finalement utilisent Internet comme une toile de savoir-faire et de briques techniques qu'ils mettent en partage. Et à ce titre, je trouve que justement, c'est un corps, un champ vivant de l'utopie originelle du web qui a fait ses preuves pendant le Covid, pendant le confinement. Je veux dire, la réaction des mouvements makers à l'international, ce sont les
premiers... Pour illustrer effectivement les makers, on peut parler de ces tiers-lieux, des gens qui vont fabriquer eux-mêmes avec les objets télécliniques, des imprimantes 3D, des ateliers de réparation.
C'est eux qui ont fabriqué les premiers, commencé à imprimer les masques.
Exactement.
Pour les personnes qui étaient en première ligne, pour les hôpitaux, ils se sont auto-organisés dans la fabrication, à la fois dans les tiers-lieux et chez les gens qui possédaient des imprimantes 3D. Donc il y a, je trouve, dans ce vivier-là, je trouve, hein, un corps social qui est typiquement dans l'utopie d'interconnexion originelle qui nous appelait à plus.
Et qui est peut-être dans l'interaction avec votre travail en tant qu'artiste aussi, parce que quand vous faites justement des installations, puis on va commencer à en parler de votre travail aussi à vous deux là, pour qu'on puisse aussi bien le comprendre et que les gens puissent se l'imaginer, mais vos installations, Philippe, est-ce que vous faites appel justement à des artisans? Est-ce que c'est vous tout seul qui les fabriquez? Comment ça se passe?
Moi, je n'ai pas de médium, je suis pas attaché à un médium en particulier. Et je vais autant fabriquer une sculpture en bois dans le garage de mon oncle en banlieue de Porto que m'adjoindre les services d'un ami codeur ou de la recherche.
Ouais, c'est vrai.
Albertine, pareil?
Ouais, pareil. En fait, c'est il n'y a pas de média de prédilection particulier, donc on peut utiliser... des livres, des disques, des objets connectés, du code fabriqué à la découpe laser. Donc il y a beaucoup d'outils. Donc on les utilise beaucoup comme des outils et on peut fréquenter effectivement un imprimeur ou un codeur, un développeur. Donc on n'a pas de... Enfin, c'est assez pluriel en fait.
Tu t'es mis la chanson en plus il n'y a pas longtemps.
Ouais, voilà, la chanson. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de... c'est pas parce qu'on dit numérique en fait qu'on nous imagine devant un ordinateur à ne faire que ça. Au contraire, en fait, c'est essayer de représenter ça, comme disait Philippe tout à l'heure, avec des formes différentes.
Mais justement, c'est ça. On voit vraiment qu'il y a une matérialité dans le travail. On va prendre un exemple, Caring the Cross, puisque je vous parlais justement, Philippe parlait justement de cette structure en bois. Donc, c'est, racontez-nous, c'est ce F de Facebook. On était aussi à l'époque où Facebook était prédominant. Aujourd'hui, on le ferait peut-être avec le T de TikTok. Mais ouais, à l'époque, c'était le F de Facebook qu'on avait donc sur l'épaule, que vous portiez, c'était une croix.
Il y a une galerie lisboète qui s'appelle Zaratan qui me donne carte blanche en 2019 et je leur dis j'aimerais bien réunir tous mes travaux autour du sacré et de la technologie. Donc d'ailleurs je fais attention à réunir à la fois les travaux qui parlent de l'utopie, d'interconnexion, côté vraiment spirituel, universel, jusqu'aux travaux finalement qui évoquent nos dépendances et nos addictions numériques d'aujourd'hui. Et pour couronner ou pour inaugurer l'exposition, j'avais décidé de fabriquer une croix latine, parce que j'avais entrevu dans ce F de Facebook, finalement, une croix qui perdait un peu de sa force. Me voilà parti dans la fabrication d'une croix de 3 mètres 40. Et j'ai inauguré l'exposition avec une performance dans l'espace public à Lisbonne, avec le public qui était là à l'inauguration. On a déambulé jusqu'au jardin des étoiles, donc
qui était
monté,
qui t'aidait à porter la croix.
Et voilà,
un chemin de croix, c'est
un chemin de croix, une Via Dolorosa contemporaine, qui pour moi était à la fois Bien sûr, avec un requiem, faut le dire aussi, avec un requiem à fond pour vraiment mettre l'accent sur l'aspect douloureux de la chose. Et l'idée, c'était à la fois de porter, bien sûr, ce poids du numérique qui pèse aujourd'hui. On a parlé du thème de la nuit, la Biennale chronique tout à l'heure. Et c'est vrai que typiquement la nuit, ou avant de se coucher, ou en se réveillant, on voit bien que le numérique entre en tension avec nos vies, à nous mettre dans des boucles, dans des cycles de veille plus grandes que ce que notre corps peut accepter. Moi d'ailleurs, je suis en train de préparer une installation là-dessus. Et la croix, je voulais rassembler justement... cet espoir originel du web et cette oppression, enfin je voulais mixer cette double sensation que me procure finalement ce nouveau monde.
Ça a été finalement la croix et la bannière nette et la bannière du web. Je sais pas si vous avez pensé à ce jeu de mots. En tout cas, Philippe, en tout cas, je vous le donne bien volontiers. Mathieu Vabre.
C'est sympa.
Mathieu Vabre.
Je sais pas.
Non, je monétise vos données, mais pas mes jeux de mots. Mathieu Vabre, justement, puisqu'on parle de nuit dans cet imaginaire, dans cette nuit qui est celle de votre biennale, quelle est la portée, justement, des œuvres technocritiques qui irriguent, qui nourrissent cette nuit?
Oui, il y a une part aussi de ce que disaient Philippe et Jean-Paul Albertine, ouais, d'artistes qui viennent questionner nos technologies qui envahissent à plusieurs endroits nos nuits, en fait, puisque comme je le disais tout à l'heure, on voulait questionner, savoir si cet espace-temps était toujours un espace de liberté, de repos, dédié à l'improductivité, dédié à notre intimité. Et on voit que le temps dédié notamment à l'obscurité de la nuit, il est grignoté de plus en plus par les technologies, par la lumière permanente. Un des livres qui nous a beaucoup guidés dans l'éditorialisation de cette biennale et le commissariat, c'est Jonathan Crary qui parle dans son livre 24/7 du capitalisme à l'assaut du sommeil, qui reprend des termes très contemporains comme le CEO de Netflix qui dit que son plus grand ennemi aujourd'hui est la fatigue et le sommeil. Donc voilà, le temps de l'obscurité, de la nuit, à partir de l'apparition de l'électricité où les pouvoirs ont voulu contrôler en fait cet espace urbain, est repris aujourd'hui de plus en plus par les GAFAM, les plateformes numériques qui viennent grignoter justement ce temps dédié au repos et qui viennent nous solliciter 24/7, pour reprendre l'expression de Jonathan Crary. Donc plusieurs artistes nous dénoncent ça et viennent critiquer justement ces systèmes de prédation, comme Donatien Aubert notamment, qui expose un projet qui s'appelle Veille Infinie et qui vient décoder tous les systèmes de prédation justement de ces plateformes numériques.
Voilà, système de prédation de ces plateformes numériques. Quand on parle de prédation, on sait que la proie, c'est nous, enfin, nos données. Et les données sont justement au cœur de beaucoup de vos projets. Avant de vous entendre là-dessus, Albertine, en tant que data artiste, on va écouter justement un autre artiste italien que vous connaissez sans doute, Paolo Cirio, qui avait fait une sorte de fantôme de la rue en partant des données de Google Street. On écoute.
Pour moi, ces gens sont des proies de la guerre de l'information, un conflit qui implique Google et les législateurs qui tentent de lui imposer des règles. Et ces gens sont aussi les victimes des artistes comme moi qui travaillent à partir de cette matière, et aussi des algorithmes qui floutent leur visage.
Paolo Cirio veut montrer à ces fantômes d'Internet qu'ils sont bien des victimes. Pour cela, il s'est engagé dans une campagne d'affichage mondiale. Il imprime en taille réelle les photographies des gens piégés par les voitures du moteur de recherche et les colle à l'endroit exact où ils ont été capturés, comme ici à Barcelone.
Voilà, se voir grandeur nature, donc à l'endroit où les caméras de Google Street nous ont pris en photo à notre insu. On a bien compris cette installation, encore une fois, de matérialiser ce que l'on ne voit pas, nos données, ce qui nous échappe entre les mains. J'ai le troisième tome d'Albertine Meunier qui s'appelle « Ma Google Search History ». Racontez-nous ce projet, ce livre, que vous pouvez voir d'ailleurs sur notre compte Twitter « Le meilleur des mondes ». On va aussi peut-être même publier la croix de Philippe, comme ça on pourra allier le son à l'image. Racontez-nous, Albertine Meunier, ce livre que j'ai entre les mains.
Alors donc, « My Google Search History », c'est un projet que je mène depuis plus de 16 ans maintenant. On en est aujourd'hui au tome 3, donc à peu près tous les 5 ans, je publie sous la forme d'un livre l'intégralité de mes recherches Google, voilà, donc de manière très très linéaire.
Laissez-le par terre, ça, il tombera pas plus bas, comme on dit.
Donc c'est toutes les recherches qui sont mises bout à bout. Donc c'est un livre qui est à peu près illisible puisque c'est une très très grande liste qui est organisée mois par mois.
Vous les obtenez rapidement, facilement, ces données?
Alors au tout début, c'était un vrai boulot, c'est-à-dire c'était un service qui existait sur Google qui s'appelait My Google History d'ailleurs, et il fallait on pouvait pas récupérer ces données de manière automatique, donc au début je copiais-collais dans un fichier texte toutes mes recherches. Et puis finalement, au cours du temps, Google a été obligé de restituer les données aux utilisateurs. Mmh. Et aujourd'hui, il y a un service qui s'appelle Google Takeout qui permet de récupérer l'intégralité de ces données. Alors pour arriver à cette forme de livre, il y a un travail quand même de récupération, de réorganisation, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui vous permet de récupérer vos données, mais c'est tellement illisible que personne ne le fait. Donc pour arriver à une forme lisible, même si elle est illisible, c'est quand même un process. Ouais. Et donc en fait dans ce travail, ce que ça montre en fait, c'est effectivement l'intégralité des recherches pour une personne, ça représente une quantité assez impressionnante.
Oui, parce que là j'ai à peu près 450 pages.
Et ouais, sur ce troisième tome. Le premier tome, donc je l'ai démarré en 2006, il représente à peu près 250 pages. Le deuxième, 300, il en passe à 400-500.
Donc je peux dire ferme pédagogique, serre municipale de Rosny-sous-Bois, ferme pédagogique Vitry-sur-Seine, ferme de Vitry-sur-Seine, machine à saucisses, manuel, tiny drone weapon, tiny drone, voilà. Là, ouais. C'est voilà, page de 328, quelques-unes de vos recherches. C'est pour montrer, on n'a pas forcément conscience que toute cette histoire, toutes ces traces, toutes les recherches que l'on tape sur Google, on pense qu'on les tape et on les efface. En fait, non, elles sont marquées, inscrites à vie, et c'est ce que vous avez voulu rendre compte par la publication de ce livre.
C'est ça. S'accumule, et en fait il y a d'une part cette accumulation qui est rendue visible, et l'autre point saillant en fait de ce projet, c'est que de rendre ces données publiques, en fait ça amène une forme de fragilité au système. Donc là, comme il n'y a qu'une personne qui le fait, bon, c'est vraiment extrêmement minimal, mais en fait la force de ces GAFA et notamment de Google, c'est de rendre, vous faire croire en fait que vos données sont personnelles entre eux et vous. Mmh. Ouais, et donc de ce lien intime que vous liez avec Google, finalement c'est un peu là la prison. Si tout le monde, alors c'est un geste un peu radical, mais si tout le monde mettait ses données en mode public, on n'aurait pas un Google aussi puissant. Parce qu'en fait, sa force vient de ce côté de vous faire croire que vos données sont privées, mais elles sont partagées avec eux, en fait. Donc, elles ne sont pas privées.
D'ailleurs, c'est la mort de la vie privée. Philippe, c'est aussi une de vos œuvres.
C'est vrai, on pourrait mélanger, refaire une curation autour du travail d'Albertine et notamment autour de cette... effectivement, exploitation des données privées. Lors de cette exposition sur le sacré et la technologie, moi, j'avais fait une installation, un tombeau de la vie privée, en fait.
RIP,
voilà, où j'avais simplement écrit en mémoire de la vie privée. Et j'étais venu fleurir ce tombeau de quelques couronnes funéraires étrangement ressemblantes à quelques logotypes des GAFAM. C'était rigolo, c'est que normalement ce sont les proches, la famille qui viennent fleurir la tombe des gens qui partent. Et là pour le coup, oui, ce sont des entités pour le coup vraiment très proches de nous. Elles en savent potentiellement même plus sur nous que nous-mêmes. Et là je voulais donner un corps à cette vie privée pour nous la retirer aussi.
Exactement.
Quel rapport on a à cette vie privée? Parce que, en réalité, je rencontre tout un tas de gens qui, euh, qui sont pour une transparence encore plus grande. Donc on a des profils un peu extrêmes comme ça, et puis des gens qui ne sont toujours pas rentrés dans les réseaux sociaux et font très attention, en fait, finalement aux traces qu'ils laissent.
Oui, mais il n'y a pas beaucoup de postures possibles, en fait, où il y a
pas beaucoup de choix, vous voulez.
Oui, il y a pas. Voilà, on peut pas. Enfin, où tu es dans le système, on va dire, et tu acceptes de se faire croire que tout est en mode privé, ou tu n'es pas dans ce système-là, effectivement, tu ne rentres pas dans les réseaux sociaux, ou tu vas dans le modèle de la transparence. Mais finalement, il n'y a pas tant de possibilités que ça.
Même si, Albertine, si j'ai bien compris, vous, un des axes de résistance que vous proposez, c'est justement la transparence. C'est de dire, tiens, Google a ce pouvoir-là, car il est le seul à détenir mes données. Bah, moi, mes données, je vais les donner à tout le monde. Donc, Google, comme votre voisin, comme un inconnu.
C'est ça.
En tout cas, dans les deux cas, pour faire un choix avec ou contre, encore faut-il comprendre en fait, les mécanismes de ce choix. Et c'est en ça où votre travail y participe, puisqu'il donne corps, il matérialise, soit par une tombe qui prouve que finalement la vie privée n'est plus là, elle est déjà morte, soit par ce livre qui rend compte de toutes vos recherches Google, et donc des préférences et donc de modes de consommation. Et c'est vrai qu'on n'en a pas forcément conscience, et c'est toujours intéressant de le voir, et on va même vous entendre, Albertine Meunier, non pas pour écouter vos propos, mais pour vous écouter chanter, puisque Philippe l'a dit tout à l'heure, vous pouvez utiliser aussi la musique pour continuer à créer. Donc je vous propose un titre qui s'appelle French Data Touch. Vous le connaissez, Philippe?
Bien sûr.
Et bien sûr, vous êtes dans le meilleur des mondes.
France Culture. Le meilleur des mondes. François Saltiel.
Tata touch, tata touch, tata. J'ai pris ma douche, babadouche, babadouche, plein de gros atalouche, gaffe à touch, gaffe à touch. Gaffa, j'ai pris la mouche. Tata louche, tata louche, tata. J'ai pris ma touche, babadouche, babadouche, plein de gros atalouche, gaffe à louche, gaffe à louche.
J'ai chanté hier, donc...
Je voulais un magnifique enchaînement,
petite performance.
Bah, faites-nous juste un petit couplet.
Data touch, data touch, c'est ça que tu veux?
Ouais, c'est ça.
Data touch, data touch, tata, j'ai pris ma douche, baba douche, baba douche, plein de gros data louche, cavalouche, cavalouche.
Et voilà.
Gaffa, j'ai pris la mouche.
Moi, j'ai pas pris la mouche, mais je vais prendre les nouvelles du meilleur des mondes.
Better, happier, comfortable, not drinking too much. Regular exercise at the gym, 3 days a week.
Les nouvelles du meilleur des mondes, François Saltiel.
Et on commence ce journal par une guerre entre milliardaires. Elon Musk, qui n'en finit plus de faire l'actualité, s'est attaqué en 4 tweets tels des banderilles adressées à Tim Cook, le patron d'Apple. Il lui reproche de ne plus investir en publicité sur son réseau alors qu'il en était jusque-là l'un des tout premiers annonceurs. Et il en profite pour remettre en question les fameux 30% de commission perçus par la pomme sur chaque opération de l'Apple Store. Attaque frontale qui pouvait laisser craindre un divorce planétaire entre les deux titans. Mais les affaires ont leur raison que la raison ignore. Notez qu'il y a très peu de cœur dans cette équation. Tim a donc invité Elon à son siège et apparemment les voilà provisoirement rabibochés. Apple n'aurait jamais eu l'intention d'écarter Twitter, même si l'oiseau a cruellement relâché ses efforts en matière de modération. On a d'ailleurs appris cette semaine que le réseau n'envisageait plus de lutter contre les informations trompeuses liées au Covid-19. Mauvaise nouvelle au moment d'une reprise de l'épidémie, une décision cohérente pour Musk qui s'est régulièrement plaint de la politique sanitaire et du confinement de ses salariés dans les entreprises Tesla. La désinformation est un virus qui semble plus que jamais contagieux sur Twitter. Et de modération, il en est toujours question, mais cette fois-ci sur TikTok, où des vidéos sanglantes de la milice russe du groupe Wagner circulent abondamment. C'est l'entreprise américaine NewsGuard qui a repéré ces centaines de vidéos à la gloire des miliciens proches de Vladimir Poutine. Depuis la publication de leur rapport le 1er décembre, certaines vidéos, notamment d'exécution, ont été supprimées, mais de nombreuses demeurent et TikTok peine à s'en expliquer. Des contenus d'autant plus dangereux qu'ils servent à recruter de jeunes âmes égarées. Ces vidéos, vues des millions de fois, renvoient vers des liens d'information sur le groupe avec des appels à le rejoindre, une affaire qui éclate au moment où TikTok a refusé, à l'inverse de Meta, Google ou Snapchat, de signer la charte française visant à protéger les mineurs en ligne. Donc si on résume, nous avons une plateforme chinoise qui, au lieu de souscrire à un texte de bon aloi, laisse passer des images de propagande d'une extrême violence. Si vous trouvez une cohérence à tout ça, envoyez-moi un SMS. Pourquoi un SMS ? Car le Short Messaging Service fête cette semaine ses 30 ans. Le 3 décembre 1992, un collaborateur de Vodafone recevait un Merry Christmas. À cette époque, les téléphones n'avaient pas encore de clavier et pesaient une tonne. Il faudra attendre 2 ans pour que le Nokia 2010 déboule et rende l'usage des SMS mainstream. L'année 2000 est celle de l'heure de gloire, avec une pratique compulsive, que ce soit pour la drague ou pour écrire ce que l'on peine à se dire. Je passe sur les emojis, photos et vidéos qui ont augmenté ces simples caractères textuels, mais à l'heure où les 3/4 des humains de plus de 10 ans possèdent un téléphone portable, le SMS doit faire face à la concurrence des messageries instantanées, WhatsApp, Messenger, Telegram, jugés plus rapides et fonctionnels. Le SMS, texto ou mini-message vit peut-être à 30 ans ses dernières heures, ses derniers mots, voire ses dernières lettres, à l'instar de ce journal. Fin des SMS, ça vous rend un petit peu nostalgique ou vous allez vous en sortir ?
Ouais, ben moi j'utilise encore, pas toi ?
Si, si, j'utilise, j'entends des SMS.
Ouais, il y a une hiérarchie dans l'utilisation des plateformes de communication. Le SMS, c'est quand même... pour une garde rapprochée, quoi, la famille.
Les gens proches. Donc, si vous recevez un SMS de Philippe Villas-Boas, vous savez que vous faites quelqu'un partie de la famille.
Exactement.
Albertine Meunier est avec nous, tout comme Mathieu Vavre, directeur esthétique des Biennales des Imaginaires Numériques, ainsi que Jean-Paul Formentreau, socio-anthropologue. Nous discutons ce soir dans le meilleur des mondes de la portée artistique, de l'art utilisé pour nourrir une technocritique, même si certains n'acceptent pas totalement ce terme. Jean-Paul Formentreau, justement, cette technocritique, elle est maintenant devenue assez commune. On a reçu d'ailleurs ici dans cette émission de nombreux essayistes qui la critiquent. On voit aussi un public tout de même de plus en plus informé qui va pointer du doigt les différentes dérives. Or, quand on est dans la pratique artistique, j'imagine qu'on doit quand même être toujours dans une certaine avant-garde. On doit être repérer les signaux faibles. On doit être un peu la tête en précurseur. Or là, on a l'impression que la critique du numérique, ça devient quasi systématique. Comment on arrive à résoudre ça, Jean-Paul Formentreau ?
Bah là, on vient d'entendre que effectivement, si on parlait de l'accident et du progrès tout à l'heure, ou du remède et du poison, l'accident ici, ce serait d'accroître la surveillance de masse des citoyens d'une certaine façon, puisque les GAFAM ont fait des données personnelles massives la matière première sur laquelle ils basent leur empire. Alors peut-être que pour citer McLuhan, l'art constitue ici un contre-milieu, un radar, un antidote d'une certaine façon qui permet de former la perception et le jugement. C'est salutaire, je crois, et notamment à travers le décloisonnement aussi que promeut la pratique artistique entre art, technique et société. J'avais envie d'insister sur l'idée que les œuvres qui nous sont présentées depuis le début de cette émission souvent sollicitent la société civile pour être développée. Vous aviez parlé de Street Ghost de Paolo Cirio, par exemple, qui réalise des ateliers avec les citoyens de plusieurs villes pour aller afficher chez ces fantômes de prise par la Google Car à l'endroit précisément où les photos ont été capturées. Mais on pourrait penser aussi aux ateliers que mène Benjamin Golon, No Lab, à la Gaîté Lyrique en ce moment, où moi j'avais adoré le projet Hyper Olds aussi d'Albertine Meunier, elle pourra en parler, mais qui invitait des femmes de plus de 77 ans, non pas à des ateliers d'apprentissage pédagogique de l'Internet, mais à véritablement une réflexivité critique hein, sur l'usage des réseaux et sur ces plateformes-là. Donc on a des projets qui sont qui dépassent le l'art et la technocritique traditionnelle en devenant des plateformes de réflexivité communes aussi, hein, disons partagées, hein, en faisant
oui, collaboratif en fait, c'est ça que
l'Internet est un problème public.
Exactement, ouais, de manière collaborative, presque main dans la main, c'est-à-dire qu'effectivement, pour revenir sur la croix de Facebook, alors elle a peu de sens si vous êtes tout seul à marcher, qu'il n'y a personne autour de vous, et que vous ne le faites pas dans un espace public. Pour reprendre et pour expliquer justement une autre œuvre qui est Las Datas, à laquelle et Albertine et
Casino
Philippe
Las Datas.
Casino Las Datas ont travaillé, bien sûr. Là aussi, expliquez-nous déjà le dispositif, peut-être Albertine, pour bien comprendre que ça ne fonctionne que justement avec si le public.
Ouais. Ouais. Bah, Casino Las Datas, en fait, c'est la reconstitution d'Internet, mais grâce à des machines à sous. Donc, on a un certain nombre de machines à sous qui sont disposées dans une salle, et pour que le public, les spectateurs puissent jouer, il faut qu'ils nous communiquent leurs données. Donc, le nom, le prénom, ça vaut. Un jeton jusqu'à le numéro de carte d'identité qui peut en valoir 10 ou le numéro de carte bleue. Et plus vous communiquez vos données et plus vous avez des jetons.
Vous avez récupéré plein de numéros de carte bleue comme ça en fait d'ailleurs.
Ouais.
Et des cryptogrammes.
Des cryptogrammes aussi.
Et en fait après une fois qu'on a plein de jetons, on peut aller se diriger vers la machine à sous et jouer à la machine à sous. Donc, et peut-être gagner le jackpot et même certains goodies comme le bisounours Casino Las Datas.
Qui est, surtout on perd quoi, parce que le seul gagnant du casino, c'est le Casino Las Datas qui remporte les gains.
Ouais.
Ce qui est intéressant, c'est que les gens font une expérience un peu de sortie d'eux-mêmes, dans le sens où le casino rejoue l'espace de jeu dans lequel on joue quand on est sur Internet, parce qu'on il y a la transaction implicite du « si c'est gratuit, c'est toi le produit ». Donc finalement, c'est un peu ça qui se rejoue sous cette forme. Et, sauf que là, en fait, on le compte et on voit et on dépense et les jetons filent entre nos doigts. Et
on voit aussi avec quelle facilité les gens nous
livrent pour avoir trois jetons.
Oui, imaginez, c'est ça.
Trois jetons factices.
Ouais. Puis surtout, ils revivent de manière différente à travers la forme du casino. Ces mécanismes d'addiction sonore, ces incitations à jouer, tout ce que la Silicon Valley a repris en fait à Las Vegas et dans le design des plateformes en fait.
On peut citer notamment le fait que dans un casino par exemple on n'a pas de perception du temps, les horloges disparaissent, on ne sait jamais s'il fait jour, s'il fait nuit. Pendant longtemps sur les réseaux on ne savait pas non plus combien de temps nous restions devant les écrans.
Et de la même façon le scroll infini aujourd'hui. Reprend cette fonction-là qui cherche à faire disparaître des repères temporels et des limites en fait à l'usage au scroll.
Et le mouvement même, hein, puisque quand on parlait à l'époque, c'était les bandits manchots, donc il y avait quand même cette action du haut vers le bas pour faire jouer et pour espérer gagner. Lorsqu'on voit le scrolling avec notre pouce qui va du bas vers le haut, on a cette même action, cette même volonté de la récompense aléatoire, c'est-à-dire je lance et j'espère gagner.
Je prépare une installation qui s'appelle Animalité numérique, puisque en fait la sociologie du numérique, c'est elle-même intitulée les humanités numériques. Mais je pense qu'elle pourrait se renommer aujourd'hui animalité numérique, justement par rapport au type de relations sociales que ces plateformes mettent en place. Beaucoup, justement, dans l'exploitation de l'un par l'autre. Et l'installation consistera en une roue de hamster pour humains, dans laquelle on pourra tous aller scroller nos contenus, mais de manière vraiment à réincorporer, à retraverser finalement ces flux, cette fois avec nos corps. Parce que j'ai la sensation que nos corps savent un peu plus que nous, et que en rejouant finalement cette petite folie potentiellement infinie du scroll, à travers nos corps, on peut je pense...
Prendre conscience,
oui,
peut-être s'arrêter. C'est-à-dire qu'effectivement, on a vu les premières images de votre installation, c'est une roue de hamster, où face justement à cette roue, c'est les écrans du scrolling, et peut-être que là où l'esprit ne s'épuise pas ou peut, car ces outils savent utiliser toutes les failles, les vulnérabilités de notre cerveau, peut-être que le corps, que le numérique a encore du mal à reproduire d'ailleurs, le corps comme dernier rempart,
oui,
finalement.
Méta, ils font un retravail pour ajouter les jambes.
Sans les jambes, ah oui.
Pour ajouter les jambes. Dernièrement, donc c'est assez rigolo de voir effectivement qu'il y a un malaise avec le corps, quoi.
Sans les jambes.
Et à juste titre, parce que justement le corps il nous ancre sur Terre et sur Terre il y a 2-3 problématiques à gérer, quoi.
Mathieu Vabre, est-ce que justement ce corps dont on vient d'évoquer comme peut-être encore une forme de résistance, ce corps qui nous rend humains dans un monde numérique qui a tendance justement à nous déshumaniser, à parfois même partir vers le transhumanisme, est-ce qu'il est présent ce corps dans la nuit ?
Le corps, heureusement, il est encore présent dans la nuit. C'est aussi une thématique qu'on a pu traiter en 2020 beaucoup, puisque c'était autour de l'éternité cette fois-ci. Et ça traitait de ce paradoxe qu'on est en train de vivre actuellement, en fait, où on parle beaucoup de fin d'un monde, fin aussi de notre, peut-être notre civilisation à venir. Et en même temps, une idéologie qui est très forte, qui est prônée aujourd'hui par les GAFAM et notamment par Google sur le transhumanisme et cette idéologie de vie éternelle où nos consciences pourraient être téléchargées dans une vie artificielle. Et donc on voit bien que toutes les stratégies aussi servent un peu à nous décorporéiser et à prolonger nos corps dans les technologies. Donc les artistes aussi là travaillent encore sur des formes de détournement et un peu à la manière des makers aussi, reviennent rematérialiser, recorporiser aussi nos attitudes et nos gestes face à ces technologies.
Merci Mathieu. Jean-Paul Formentreau, justement sur la question de ce corps comme objet de désobéissance, puisque c'est l'un de vos sujets de prédilection.
Que dire ? Les œuvres de Julien Prévieux, par exemple, ont questionné la capture du mouvement et puis la possibilité aussi pour les corps de se réapproprier ces outils de mesure également et d'enregistrement, de surveillance du moindre mouvement. Moi, ce que j'aime beaucoup là dans tout ce que je viens d'entendre aussi, c'est que on a affaire à des ruses, à des détournements, à un art du fake aussi. Mais surtout à des parodies joyeuses des rituels du web qui exposent la culture vernaculaire aussi du web. Et ça, je trouve ça très, très, très riche, évidemment. Alors, j'ai entendu les artistes dire qu'ils se situaient sur un plan symbolique, mais moi, j'aime aussi à y voir, s'en dégager de nouvelles esthétiques, mais aussi considérer que l'art joue sur ce terrain un rôle de lanceur d'alerte, d'une certaine façon, parce que loin de se morfondre de tout déterminisme technique, ce retournement là, cette technocritique joueuse d'une certaine façon parodique est vraiment importante, pour dépasser cette emprise des GAFAM d'une certaine façon.
Et aussi Jean-Paul, si je peux me permettre, c'est qu'elle n'est pas moralisatrice et c'est en cela aussi où cette portée critique est peut-être plus forte que certains essais ou certains rapports. Il y a ce que vous dites, le côté joueur, mais on n'est pas là pour faire la morale, on est quelque part dans une observation participante, on se rit de nous-mêmes. Et ça, je pense que c'est intéressant aussi.
Tout à fait. On se rit de nous-mêmes et aussi on exerce un pouvoir d'une certaine façon, parce que il y a une dimension politique aussi dans tout ça d'une certaine manière. Faire œuvre de hacking a des enjeux esthétiques autant que politiques. C'est réacquérir une autonomie, une indépendance, une réflexivité. Moi, j'aime le concept de sous-veillance qu'a développé Steve Mann à cet égard, c'est-à-dire retourner l'instrument de surveillance, regarder d'en bas, prôner un panoptique inversé qui invite les citoyens finalement à se saisir aussi des dispositifs numériques et pas simplement à les subir, quoi. Sur tous ces points, les œuvres dont on vient de parler sont des portes d'entrée magnifiques, quoi. C'est...
Albertine et Philippe, après, rapidement.
Peut-être tu veux...
Non,
mais c'est vrai que, enfin, moi, je trouve que une des choses les plus importantes, c'est effectivement tout le monde est dans ce numérique, mais comprendre bien les enjeux et les mécanismes qui sont sous-jacents, c'est pas forcément évident, en fait. Et puis, effectivement, voir vers où, enfin, ce que ça provoque, où ça nous amène. Et le comprendre, c'est déjà la première étape. Et c'est vrai que les œuvres qui sont matérialisées, souvent, elles permettent déjà cette étape-là. Et après, en seconde étape, effectivement, il y a des moyens de se positionner ou de réagir ou de, entre guillemets, résister. Mais tant qu'on n'a pas fait cette étape de compréhension, on ne peut pas passer à l'étape suivante.
Effectivement, tant qu'on n'a pas perçu le chemin vers lequel il faut aller, lorsqu'on n'a pas perçu ne serait-ce que le problème, impossible de le résoudre. Philippe.
Je voulais rebondir sur la stratégie de surveillance qu'évoquait Jean-Paul, parce que justement, c'est une des œuvres qui se promène en ce moment... au Brésil, en ce moment à Rio de Janeiro, non, à Sao Paulo. Donc ça tourne dans toutes les villes, donc j'ai du mal à suivre. Mais en tout cas, il y a une œuvre qui tourne là-bas, qui s'appelle The Rated Republic of China, où en fait, j'ai repris cette idée de notation. Sur Internet, tout est noté, et la Chine
le crédit social.
Est connue pour notamment avoir, voilà, de manière parcellaire, dans plusieurs villes, mis en place une forme de crédit social. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, sur le drapeau chinois, il y a aussi des petites étoiles. Et peut-être que ces petites étoiles aussi pouvaient servir une forme de notation et de surveillance par les citoyens de la République chinoise. Donc, j'ai dans une série qui s'attache au drapeau et aux tensions entre numérique et politique, il y a un drapeau chinois qui est downgradé à...
Vous voulez dire que vous êtes l'homme qui a réussi à noter la Chine et la surveiller, quoi.
Alors, c'est une notation sociale, hein.
Ah, d'accord. Non, mais c'est beau, ouais. C'est beau. Ouais. Et vous savez, Philippe, on va rester justement en Chine puisqu'on va aller voir l'une de ces plateformes qui est presque un drapeau, un étendard de son monde numérique et des réseaux sociaux. Cette plateforme, c'est TikTok et c'est Marcus Dupont-Ménard, journaliste à Numéra. Bonsoir Marcus, qui va nous
en
parler.
Bonsoir François.
Et qui va nous en parler pour la défendre, cette plateforme TikTok. Enfin, plutôt pour défendre la manière dont certaines personnes peuvent l'utiliser, voire la braconner.
Et oui, tant qu'il y a de l'art, il y a de l'espoir, François. Et justement, on peut découvrir des artistes de musique classique grâce à TikTok. Voici l'exemple d'une violoniste talentueuse, retenez bien son nom, Esther Abrami. Il y a un an ou deux, je faisais défiler des vidéos sur l'application et je suis tombée sur une vidéo où elle reprenait une musique pop au violon sous la forme d'un petit sketch. Alors moi, comme j'aime à la fois le violon et l'humour, évidemment, je me suis abonnée, ce qui m'a permis de voir régulièrement d'autres contenus liés à cet artiste, son art de manière générale. Des vidéos géniales de violon, des vidéos sérieuses, créatives ou humoristiques. Et je ne suis pas le seul, son compte a grandi. Aujourd'hui, elle compte plus de 300 000 abonnés sur TikTok, 200 000 sur Instagram. L'art sur les réseaux sociaux peut fédérer massivement.
Ça, on le comprend, Marcus, mais est-ce qu'il y a une vie pour ces artistes au-delà des réseaux sociaux ?
Oui, TikTok ou Insta ne sont que des outils, en plus des concerts, des podcasts, des rencontres, des médias. Aujourd'hui, en dehors des réseaux sociaux, Esther Abrami est musicienne professionnelle, reconnue pour son talent en tant que telle. Elle est signée chez Sony Music, l'un des plus gros labels pour la musique classique. Elle a sorti déjà plusieurs albums et en ce moment, une collection de morceaux de Noël. Tenez, parfait pour un mois de décembre sur France Culture. C'était un extrait de Walking in the Air, donc repris par Esther Abrami. Et ce n'est pas impossible que sans TikTok ou Instagram, je n'aurais pas forcément eu l'occasion de découvrir Esther Abrami et de pouvoir écouter sa musique.
Et c'est vrai qu'on n'imagine pas tout de suite comme ça que sur TikTok, on puisse entendre et voir des artistes d'instruments classiques.
Et pourtant, les artistes trouvent plein de moyens créatifs pour faire entendre leurs instruments. Hugo Bach, par exemple, se filme sur les pianos des gares en train de jouer dans les halls d'accueil. Et puis tiens, encore une artiste géniale, Mira, Call Me Mira. Elle propose des lives de piano le soir, de super tutos pour apprendre à jouer. Bref, Mira propose des bulles de respiration.
T'es encore en train de scroller sur TikTok ? Tu crois pas que c'est le moment de prendre une pause ? Allez, je t'aide, écoute cette musique.
Oui, c'est beau, comme je disais, tant qu'il y a de l'art, il y a de l'espoir. Elle s'appelle donc Mira au piano. Ces jeunes artistes français que j'ai cités font des réseaux sociaux une plateforme pour l'art, comme un mur, comme une feuille de papier, comme une toile.
Merci beaucoup, Marcus, pour ce jeu de mots final. Et puis, c'est toujours effectivement réjouissant de pas être, on l'a vu ici, de sortir de tout manichéisme, en fait, hein, de pas dans une critique trop drastique et se rendre compte que sur TikTok, il y a aussi évidemment des choses à y voir du moment qu'on en arrive à s'en servir, Philippe.
Une fonction top sur TikTok pour les musiciens, c'est l'aspect featuring. C'est-à-dire qu'on peut publier une première vidéo avec un bout d'une musique ou quelques sons, et ce son peut être réinterprété, complexifié, on va dire complété même, par d'autres. Et tous ces featuring-là, du coup, se font de manière presque instantanée avec plein d'associations de musiciens de jazz. Moi, je suis plutôt violoncelle sur TikTok, je le disais off, mais...
Et c'est là où on voit finalement
que côté-là
collaboratif
est génialissime sur TikTok.
On a vu des orchestres entiers se former avec plusieurs instruments comme ça qui faisaient des duos ensemble, et des morceaux de musique étaient composés par des collaborations entières sur TikTok. C'est assez magnifique à voir.
Et là, on revient finalement aux utopies de l'internet, justement cette idée du partage des connaissances, du fait que
de l'internet.
Et de l'internet tout court. Donc c'est ça qui est intéressant.
À ceci près que voilà, TikTok a dû récemment avouer auprès de la Commission européenne qu'effectivement les données, elles pouvaient potentiellement les passer au gouvernement chinois.
Bah, disons qu'il y avait une secrète polichinelle.
Il y avait un secret polichinelle.
Savoir si les données pouvaient transiter ou aller finalement, les données des utilisateurs européens ou occidentaux, américains, pouvaient être accessibles depuis la Chine. La réponse est donc oui. TikTok l'a avoué, mais vous voyez, ça a été un aveu.
Mais en même temps, c'était évident.
Il faut avouer, moitié pardonner, je pense, parce qu'ils espèrent... ne pas se voir restreindre forcément un marché qui est important.
Ah, vous voulez dire que cet aveu était intéressé, il n'était pas dans une pure logique éthique, voire artistique. Puisqu'on parlait justement de manichéisme à laquelle on essaye d'échapper, c'est-à-dire blanc, tout n'est pas blanc ou noir, les choses peuvent être grises, grises comme la nuit justement, Mathieu Vabre. Dans la nuit, il y a des ombres, il y a aussi un sujet que vous abordez, c'est celui de cette pollution numérique, puisqu'on parlait de cette idée toujours la même, de rendre l'invisible visible. Il y a le travail de Nathalie Roland, justement, dans le cadre de la nuit.
Stéphanie
Roland,
Oui, parce qu'il y a aussi dans la nuit, en effet, cette connexion à l'obscurité, au ciel et aux nuits étoilées, et qui est de plus en plus difficile aujourd'hui, en effet, par l'éclairage, notamment urbain. Donc, il y a Stéphanie Roland qui nous parle beaucoup de ça, avec des installations comme Dead Star Funeral, qui nous montre cette pollution lumineuse, et aussi Sébastien Robert qui essaye d'entendre le son des aurores boréales. Et on voit en fait que ce son est en train de disparaître petit à petit, puisque les ondes radio ou toutes les ondes en fait qui parcourent le monde sont en train de devenir tellement importantes qu'elles couvrent en fait le son des aurores boréales, et que dans l'avenir on sera incapable en fait de reconnaître et d'identifier, de singulariser ce son-là.
Voilà, même le son, évidemment, il y a très peu d'endroits dans le monde où il reste encore des moments de silence qui ne sont pas altérés par l'activité de l'homme. Jean-Paul Formentreau, je vais vous donner le mot de la fin, puisqu'on a parlé justement beaucoup d'éclairage, voire de lumière, pour que vous puissiez nous donner justement un petit point lumineux. Ce sera le mot de conclusion de ce meilleur des mondes. Faut-il encore rappeler le titre, Jean-Paul ?
Merci beaucoup. Alors, lumineux, je ne sais pas. Ce que vous dites me fait penser à d'autres tactiques, finalement, de résistance, que sont le camouflage, le fait d'essayer, face à la pleine lumière et à la surveillance ou à la transparence, de préserver des angles morts, ou de pratiquer ce qu'on appelle aussi l'obfuscation, qui consiste à protéger sa vie privée sur Internet, y compris en publiant des informations fausses ou imprécises. Tout à l'heure, on parlait d'art du fake. Voilà quelques tactiques également activistes, d'une certaine façon, qui permettent également de se protéger, finalement, face aux GAFAM et face à cette surveillance généralisée.
Et j'espère que cette émission du Meilleur des Mondes aura participé à matérialiser un peu plus les dangers du numérique pour pouvoir s'en prémunir, voire les détourner, voire les braconner, voire bricoler. En tout cas, nos invités faisaient tout sauf du bricolage ce soir. Je remercie Mathieu Vabre, Jean-Paul Formentreau, Albertine Meunier et Philippe Villas-Boas. J'invite bien sûr tous nos auditeurs à aller voir sur les réseaux sociaux, sur Internet, où ils sont également présents, car c'était également une vitrine d'exposition. Regarder leur œuvre, leurs disques, écouter leurs disques, voir tous leurs travaux accessibles sur Internet. Le Meilleur des Mondes, c'est terminé. Je remercie la préparation Juliette Deveau, Héloïse Robert à la réalisation, Perret Legray à la technique ce soir, Florent Bujon.